dégage sur le canal 72. 7-2.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Radio Ponton, un Radio Ponton spécial moteur aujourd'hui. Au sommaire, on va parler du salon de Gênes, le rescapé des salons de la rentrée. Les journalistes de Motorboat et de Neptune rentrent tout juste d'Italie. Je vois encore ici quelques taches de sauce tomate ou bien est-ce du Chianti, on en parlera dans un instant. On parlera aussi des élections des Motorboat de l'année qui se sont tenues malgré des contraintes sanitaires strictes, c'était hier je crois. Le retour dans le nautisme de la marque Trophy après 10 ans de mise en sommeil. Rappelez-vous, Trophy, les bateaux de pêche spécialisés dans la pêche. Et puis l'essai du premier joystick pour monomoteur signé Yamaha. On fera pour finir un point sur le sommaire du prochain numéro de Motorboat en kiosque le 16 octobre. Pour aborder tous ces sujets, notre équipe d'experts issus des rédactions de Motorboat et de Neptune Yachting, Stéphanie Deloustal.
Bonjour à tous.
Michel Luizet.
Bonjour, bonjour.
François Paris.
Bonjour.
Édouard Desgrés.
Et bonjour à tous.
À la régie, c'est Alan, moi c'est Pierre-Yves. Ne coupez pas les gaz, mais montez le son, vous êtes sur Radio Ponton.
Ici Radio Ponton.
On va parler donc tout de suite du seul salon de la rentrée qui s'est tenu. On a l'habitude de dire, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et pourtant, il y avait ce salon à Gênes qui a bien fait figure de rescapé après les annulations successives des salons nautiques français. Cannes tout d'abord, puis le Grand Pavois de La Rochelle et enfin, il y a quelques jours, Paris, le Nautique de Paris, qui n'aura pas lieu cette année. Aucun des salons prévus entre septembre et décembre n'auront résisté à l'épidémie du coronavirus. En Italie, la situation est un petit peu différente puisque la seconde vague de Covid a été moins forte ou peut-être mieux maîtrisée, tant et si bien que les organisateurs de la Fiera de Genoa ont maintenu ce salon qui s'est tenu du 1er au 6 octobre. Vous êtes de retour, mes amis. Qui avez-vous vu et qu'avez-vous vu, surtout à Gênes?
Oui, ça a été un grand plaisir de pouvoir aller à ce salon, effectivement, le rescapé. Et contre toute attente, beaucoup de chantiers ont répondu présents et à voir les chiffres de fréquentation, mais ils ont l'air plutôt bons à première vue. Et on a pu découvrir toutes ces marques qu'on connaît bien, hein, les Ranieri, BMA, Salpa, pas mal de marques italiennes. Il y avait également, faut pas l'oublier, Beneteau et Jeannot qui...
Donc des chantiers français qui avaient fait le déplacement.
Voilà.
Le format du salon était un petit peu différent. De mémoire, ils avaient allongé la durée pour mieux maîtriser la jauge. Non, est-ce qu'on a vu une différence
Non, il a été décalé dans le temps, mais le format en lui-même il reste inchangé. Ouais.
D'accord, il faisait beau.
On a eu
des conditions assez musclées pour les essais. Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
Oui, parce que c'est un salon à flot, le salon de Gênes, il faut le rappeler. Donc c'était pour nous l'occasion de pouvoir faire quelques essais qu'on n'a pas pu faire à Cannes. Ni à La Rochelle. Donc c'était bien effectivement de pouvoir y aller. Et puis c'était l'occasion aussi de voir pour Neptune des bateaux et voir un peu la santé des chantiers italiens.
C'est quand même tombé en plein moment de la fameuse tempête qui a ravagé le sud de la France. Et Gênes, évidemment, n'a pas été épargné parce que Gênes, c'est une sorte d'entonnoir où toutes les pluies se concentrent et lorsqu'il y a des orages, là-bas, c'est particulièrement impressionnant.
Donc il fallait mieux être dans des gros bateaux, ça tombe bien Michel, alors, parce qu'il y en avait un certain nombre.
Oui, on a pu aller dans le salon se promener malgré la pluie et effectivement se mettre à l'abri dans des gros bateaux. Gênes, c'est quand même le salon où se concentre un maximum de marques de gros yachts. Les trois grands sont généralement présents. Alors, c'est San Lorenzo, c'est Ferretti, c'est Azimut. Bon, Ferretti n'était pas là. Ils avaient organisé un événement annexe la veille. Mais San Lorenzo était bien là avec des très très gros bateaux de plus de 25, 30, 40 mètres. Voilà.
D'accord. Le segment 15-30 mètres, qui est déjà peut-être un petit peu plus accessible, il était également représenté?
Oui, alors je dirais que aujourd'hui c'est le segment qui domine chez les grands chantiers italiens, c'est au-delà de 25 mètres vraiment.
D'accord.
Voilà, les nouveautés se concentrent sur ce segment 25-40 mètres même. Et voilà.
D'accord, donc ça c'est pas forcément le bateau de monsieur tout le monde. Est-ce qu'on pouvait voir quand même des unités plus abordables pendant ce salon ?
La partie motorboat, nous évidemment on s'est concentré sur les unités un peu plus modestes, on va dire de 6,50 m jusqu'à le plus gros qu'on ait fait, je crois que c'est 11 mètres.
Et un Parker. Un chantier polonais.
D'accord. Est-ce qu'il y avait, comme il y a en général dans tous les salons d'automne, des présentations de nouveautés, des bateaux qu'on ne pouvait voir qu'à Gênes cette année ?
Oui, oui, il y a eu des premières mondiales, ben, notamment chez Jeannot et Beneteau, hein, Mary Fisher
795 série 2.
Et
chez Beneteau,
le Flyer 9.
Voilà, Flyer 9, c'est Antares 11
Sundeck.
Fly. Voilà. Ouais. C'est des bateaux qui normalement auraient dû être à Cannes, qui donc étaient dans le sud. Et qui, ben, du coup, comme jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si Gênes serait maintenu, mais Gênes étant maintenu, c'est des bateaux qui, du coup, ont été amenés à Gênes par les chantiers français. D'accord. Donc, effectivement, les Français étaient présents et c'était pour eux l'occasion de montrer dans un des premiers salons, enfin, le premier salon de cet automne si particulier. Quoi.
Alors, de les montrer, et j'espère d'en vendre, puisqu'on en parlait récemment, on sait que, historiquement, Cannes, le Grand Pavois de La Rochelle et le Salon de Paris représentent grosso modo deux tiers des prises de commandes, on va dire,
oui.
Voilà, pour les chantiers. Donc, quid d'une saison où il n'y a pas autant de salons ? Est-ce que Gênes remplit quelque part ce rôle ? Coche cette case, permet aux constructeurs de vendre un peu plus ?
Bah, pas sûr, parce que du fait que le salon soit sous Covid, entre guillemets, la clientèle internationale
n'a pas pu
venir.
Il y avait peu de Français, c'est ça ?
Bah pour Français, déjà, pour aller en Italie, il fallait faire un test. Hein.
C'est vrai.
Nous, les journalistes ont été obligés.
Quelques Français sont venus, qui viennent de la Côte d'Azur, généralement, qui habitent la Côte d'Azur. Ils vont faire les 250 km qui séparent Nice de Gênes. Mais les Allemands
n'étaient pas là. La presse allemande n'était pas du tout là. La presse étrangère n'était pratiquement pas là, d'ailleurs.
Exactement. Mm. Et puis la clientèle qui vient de Scandinavie, évidemment, a fait l'impasse également.
Les Russes.
Les Ukrainiens. Je parle pour mon domaine, pour les gros bateaux. Mais pour les petits aussi, je pense que c'est le cas.
Donc une édition un petit peu spéciale. Donc finalement, les Français sont toujours là où il faut, au moment où il faut. Il s'est passé un autre épisode un petit peu avant, c'était les élections des motorboats de l'année. Format, encore une fois, un petit peu différent cette année, mais vous avez eu des lecteurs, quelques lecteurs, vous avez eu une super météo, et vous avez eu un plateau de nouveautés de bateaux absolument incroyable.
Oui, je dirais que le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a certainement, nous, motorboats, on avait prévu de toute façon de faire ces élections au lendemain du Salon de Cannes. Il se trouve que le Salon de Cannes a été annulé, donc on s'est quand même posé la question, est-ce que on va avoir des bateaux ? Est-ce qu'on va avoir des lecteurs qui, venant de toute la France entière, allaient maintenir leur descente dans le sud ? Ça a été le cas, même beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc on s'est dit, on va maintenir. On a bénéficié du fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme il y avait beaucoup de bateaux qui étaient prévus pour les salons pour Cannes, il y avait des bateaux qui étaient déjà dans le sud avant l'annulation. Donc, quelque part, ça a été une chance pour nous, parce que ces bateaux-là, on dit, nous, on vient. Donc, on a eu 15 bateaux avec un plateau vraiment très, très varié, très différent. On a bénéficié de ces premières mondiales qui sont justement les Beneteau Flyer 9 Sundeck, Antares 11 Fly.
Le Mary Fisher.
Mary Fisher n'était pas là, mais on avait la Mary Fisher 1095 Fly, bien sûr. Pas la nouvelle 795, mais... Et puis, on a eu la chance d'avoir un temps absolument magnifique, des lecteurs, alors là, hyper motivés, parce que c'était des gens qui venaient de la France entière. C'était au moment où le Var commençait à être
une zone
compliquée. Ouais. Donc voilà, donc on a mis en place un protocole sanitaire pour être dans les règles. Donc gel hydroalcoolique pour tout le monde, masque pour tout le monde. Et puis, ça s'est super bien passé. On a eu des gens... aussi bien du côté professionnel que du côté lecteur. Vraiment, ça c'était un super événement. De mémoire, même de certains lecteurs qui viennent depuis quelques années, pour eux, c'était la meilleure année, parce que c'est vrai qu'on a eu des bateaux. On a eu quand même trois bateaux de plus de 10 mètres, donc ce qui est quand même génial. On a eu les nouveaux Bayliner Trophy. Enfin, ça a été très, très bien.
Les nouveaux Roca aussi, j'ai vu.
Alors, Roca, voilà, on a eu un bateau. Non, on a eu des bateaux, des très beaux bateaux, Rand, Roca, des Bayliner, des Quicksilver. Donc, on a eu à la fois des bateaux qui représentent le marché, et puis à la fois des bateaux un petit peu plus
exclusifs. Oui, il y avait une offre un très diversifiée cette
ouais,
année.
Ouais. C'était très intéressant.
Et peu de pneumatiques d'ailleurs.
Donc au final, on a décidé de remettre 5 prix parce que finalement, on a eu 15 bateaux. On en avait 8 de moins de 7 mètres, c'est-à-dire des bateaux qui ne sont pas taxables, mm-hmm. qui échappent à la taxe de francisation, et 7 de plus de 7 mètres. Donc finalement, on va faire un prix du bateau de moins de 7 mètres, un prix du bateau de moins de 8 mètres. Et puis, on garde, comme chaque année, le prix de l'élégance design, le prix de l'innovation et puis le prix coup de cœur du jury. Donc, on a déjà nos cinq vainqueurs, nos cinq gagnants de cette édition. La problématique étant la remise des prix.
Et oui, qui voilà. d'habitude a lieu au Nautique à Paris.
Exactement.
Et qui, du coup, ben là, il faut trouver un moyen quand même de partager ces résultats. Les plaisanciers veulent savoir.
Alors, les plaisanciers, de toute façon, le sauront puisque nous, on fera un article dans Motorboat, ça c'est sûr, dans le magazine. Mais bon, après, c'est à nous. Ben, on est en train de réfléchir, on va s'adapter. De toute façon, il faut s'adapter.
Oui,
donc,
oui. Moi, j'ai vu en tout cas le making-of ce matin sur YouTube. Ça avait l'air très sympathique. Protocole, masque, en effet.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que vous n'ayez bu que du gel hydroalcoolique lors des apéritifs.
Non.
Mais s'il y a une soirée de remise des prix, en tout cas, je veux bien être invité.
Tu seras invité, bien évidemment, Pierre-Yves.
Bon, c'est très gentil. Parmi les nominés, alors on ne sait pas s'ils ont gagné quelque chose, mais au bateau de l'année, tu as cité tout à l'heure le nom de Trophy. Moi, je ne sais pas pourquoi j'associe Trophy à une mémoire relativement lointaine, en tout cas de bateaux de pêche. Alors, pas de bateaux de pêche professionnels, mais je me rappelle avoir vu des gens avec des cannes à pêche sur des Trophy. C'est bien de la même marque dont
tout,
il s'agit.
Tout à fait. Trophy, c'est des bateaux qui ont été très célèbres dans les années 70-80. Et c'est des bateaux, effectivement, qui faisaient partie de la gamme Bayliner. Bayliner qui a été pendant des années aussi le leader mondial en termes de vente de bateaux.
Tout à fait.
Et c'était en fait toute la gamme pêche. Donc, et ils ont eu tellement de succès qu'en fait, ils ont décidé d'en faire une marque à part entière. Donc, début des années 2000, c'est devenu une marque à part entière. Et puis, en fait, malheureusement, cette marque n'a pas super bien vécu la crise de 2008. Il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, en fait, la marque a été mise en sommeil. Mais Bayliner, quand même, qui depuis a renouvelé sa gamme et qui fait des consoles centrales et des bow riders, s'est dit, c'est quand même dommage, on a cette marque-là. Donc, on va la ressusciter, entre guillemets.
Donc, ils ont resegmenté un peu leurs produits pour les rendre plus
Exactement.
Distinctifs les uns des autres.
Ils ont resegmenté, et ils ont fait donc une gamme Trophy, qui est la gamme de tout ce qui est console centrale, et une gamme VR, qui est la gamme qui rassemble tous les bow riders et les QD.
VR voulant dire
Virtual reality, non, je ne sais pas.
attends, si, il y a un truc, je pense. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, le VR. Il faudrait que je leur demande.
Si nos auditeurs s'en rappellent, ils pourront toujours commenter.
Voilà, donc nous, on a eu la chance, pendant ces élections, de pouvoir essayer, parce que pour relancer ce nom, ils ont associé ça à deux nouveaux bateaux, qui sont un 20 et un 22 pieds, qui sont des bateaux avec carène en V, coque un peu tulipée, et qui sont déclinés chacun en deux versions, CC pour vraiment console centrale pêche, et CX pour un peu plus familial. Donc c'est des bateaux qui globalement ont des plans de pont très similaires, mais qui diffèrent essentiellement par la banquette arrière, qui est beaucoup plus conviviale sur la version familiale, alors que c'est deux petites assises rabattables pour faire une plateforme de pêche sur la version pêche.
D'accord, CC c'est console centrale, c'est pas cabine cruiser.
Non, c'est console centrale, exactement. Et donc voilà, et ces deux bateaux qui ont honnêtement été très 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 bien appréciés par tout le monde. Nous, journalistes, on a eu la chance de les essayer quand même dans des conditions excellentes, puisqu'on est allé sur Porquerolles et qu'on a vraiment profité on a vraiment bien essayé ces bateaux, et les lecteurs aussi. Et je dois dire que je pense que ça a été une très bonne surprise pour tout le monde.
D'accord,
avec un niveau de qualité une bonne qualité perçue.
Ouais.
Et puis, bien évidemment, bon rapport qualité-prix, mais ça, c'est la marque Bayliner. Ça.
Donc ça, c'est fabriqué aux États-Unis.
C'est fabriqué au Mexique. Alors ça, c'est un des gros avantages, justement, parce que les bateaux américains, on en avait parlé dans un radio ponton il y a de cela l'année dernière, les bateaux américains, comme tu le sais, souffrent d'une augmentation des taxes de douane.
Oui.
Et ceux-là sont fabriqués dans une usine Bayliner qui est au Mexique.
D'accord.
Donc, ils n'ont pas cet inconvénient.
Génial.
Donc, ils sont finalement à des prix... Je pense qu'à terme, l'objectif, c'est de réussir à les fabriquer en Europe, puisque Bayliner a des usines, Brunswick a des usines en Europe. Mais là, en attendant, ces bateaux-là sont donc plutôt assez bien placés en prix.
Sur un marché qui est quand même très, très concurrentiel.
Sur un marché qui est très concurrentiel. Oui, puis qui est très concurrentiel, parce qu'il y a, en France, en tout cas, il y a une marque qui est Cap Camara, il faut dire ce qui est. Donc voilà, alors c'est des bateaux un petit peu différents, on retrouve le style américain avec une, un peu, des trucs un peu plus costauds. Avec,
par exemple
tout ce qui est accastillage, bon même si leurs taquets sont, vont être changés là parce qu'ils sont un peu petits, mais il y a une qualité perçue qui est vraiment très indiscutable hein, sur ces deux bateaux. Sur ces deux petits bateaux. Donc voilà, donc Trophy revient, ben on leur souhaite plein de réussite et longue vie, quoi, puisque coup, c'est reparti.
Le fait que ça soit Brunswick, c'est nécessairement motorisé en Mercury.
Oui, exactement. Oui, tout à fait. Ils bénéficient effectivement des nouveaux moteurs hors bord qui sont très bien, hein. Les nouveaux V6, V8 et compagnie.
Très bien. Alors, puisqu'on parle marque de moteur, il y a une innovation. Je crois que c'est Edouard qui a testé ça, c'est le joystick pour un monomoteur. Alors on rappelle que le principe du joystick, en général, c'est d'aider à manœuvrer son bateau dans des endroits un petit peu confinés.
Oui.
Mais c'est plutôt logique avec un propulseur d'étrave ou de propulseur arrière. Comment ça se passe concrètement ? J'ai un seul moteur et j'ai un joystick qui va me permettre de garer, entre guillemets, mon bateau.
Voilà. Alors, le joystick de manœuvre en soi, c'est quelque chose qui est apparu il y a quand même quelques années avec Volvo et son système IPS. Un joystick de manœuvre, ça a toujours eu besoin de deux moteurs ou trois ou plus pour fonctionner, pour pouvoir effectuer des déplacements latéraux ou des rotations sur place. Là, il se trouve que Yamaha a sorti une nouvelle direction 100% électrique, qui est très rapide. Et donc, ils ont eu l'idée d'associer à cette direction électrique un joystick de manœuvre qui ne permet pas de faire, comme un joystick multimoteur, des déplacements latéraux. Mais il se trouve qu'on peut faire sa manœuvre de port maintenant sans toucher ni au volant ni aux commandes de gaz. Ce qui est quand même, c'est une économie de mouvement, c'est plus facile.
Est-ce que c'est vraiment plus facile ? Comment ça fonctionne concrètement ? Parce que les commandes de gaz électriques, ça fait déjà quelques années oui. qu'on les avait. Là, tu dis, la direction elle-même
oui,
est électrique.
Ça veut dire qu'on n'a plus
de câble ou d'hydraulique.
Plus de circuit de fluide hydraulique comme on peut avoir sur une direction hydraulique ou sur la direction Mercury-Verado, qui est une combinaison de direction hydraulique et de pompe électrique. Là, c'est vraiment, Yamaha a sorti une direction purement électrique et du coup, il n'y a plus de fluide. Ça veut dire une réponse extrêmement rapide. Là, quand on incline son joystick d'un côté à l'autre, le moteur va d'une butée à l'autre en moins de 2 secondes.
D'accord.
Ce qui fait qu'on a un joystick très réactif.
Donc le joystick, il prend la main et sur les gaz
et sur la barre. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Alors moi, j'ai une question, Edouard, parce qu'on sait que le monomoteur, du coup, ce n'est pas pour se déplacer latéralement, ce que permet le joystick avec la multimotorisation.
Tout à fait, ouais.
D'accord. Donc, quand tu prends ton joystick et que tu te le mets sur, tu l'inclines sur la droite ou sur la gauche,
ouais.
Ça fait quoi en fait ?
Là, ça fait simplement tourner le moteur. Ouais.
D'accord, donc c'est comme si tu le faisais tourner, toi, le joystick.
Ça le fait tourner, si je l'incline sur le côté, ça le fait tourner. Si en même temps, je le tire vers moi, ça va faire reculer ou ça va
d'accord.
faire avancer. C'est voilà, ça simplifie la manœuvre dans le sens où on ne touche plus ni au volant ni au gaz. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, là, nous, on l'a essayé aujourd'hui sur le moteur le plus puissant de chez Yamaha, qui est le V8 425 chevaux. Mais Yamaha le propose dès 150 chevaux en adaptant un vérin de direction électrique, qui est une option. On n'a pas le prix pour l'instant de cette option. On devrait le savoir d'ici la fin de l'automne. Mais dès 150 chevaux, je devrais pouvoir utiliser maintenant un joystick de manœuvre monomoteur.
D'accord, donc je ne touche plus ni au gaz ni à l'embrayage, enfin à l'inverseur,
ouais.
Je ne touche plus aux commandes. Par contre, on voit le volant qui tourne, du coup, comme dans les parcs assistes.
Alors non, là, le volant, il se verrouille, là, il se bloque. Et voilà.
Alors, question complémentaire, si j'ai deux moteurs, une bimotorisation Yamaha, est-ce que ça fonctionne toujours ?
Alors,
et est-ce que ça va du coup jouer peut-être, je sais pas.
Alors là, on retrouvera
le joystick classique en bimotorisation.
Voilà,
ouais.
Traditionnel, avec un mouvement indépendant des moteurs qui va permettre un déplacement latéral.
Plus facile.
Voilà.
D'accord. Bon, ça a l'air super. Est-ce qu'on peut donc rétrofiter, on l'a dit,
voilà.
sur certains moteurs, forcément Yamaha ?
Voilà, il faut que ce soit un moteur à commande électrique.
Électrique.
Voilà,
oui.
à commande de gaz électrique, ouais, pour que ça fonctionne.
Et au niveau réflexe par rapport à ce que tu peux avoir effectivement quand tu fais ta manœuvre avec ton monomoteur où tu tournes d'un côté, tu mets des gaz, tu coupes et tout. Ça demande un petit temps d'adaptation ou pas?
Oui, ouais, même pour ceux qui ont déjà utilisé un joystick multimoteur.
C'est pas tout à fait le même mouvement.
Les réactions sont pas voilà. tout à fait. Il faut réapprendre le joystick en quelque sorte. On est quand même assez rapidement dans le coup. Hein. 3-4 minutes, on arrive à intégrer le fonctionnement et à faire sa manœuvre. C'est vraiment très simple, hein, honnêtement.
Ouais. Très bien. Donc, ça, il y a l'essai, j'imagine, en développé dans le prochain. Motorboat, des vidéos peut-être?
Alors, on a une vidéo qui est en ligne sur voile et moteur, dans la partie bateau à moteur. Et sur notre page Facebook, vous pouvez voir la démonstration du joystick Yamaha L-Master.
Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le prochain motorboat, Stéphanie?
Alors, dans le prochain motorboat, on a fait, parce que la période, c'est la saison, hein, donc on a fait un gros dossier sur l'hivernage. C'est Edouard qui s'y est collé avec l'aide et le soutien d'un concessionnaire de la région parisienne Nord Nautique Loisirs qui nous a accueillis une journée entière. Donc on a fait vraiment l'intégralité de l'hivernage, donc on a un gros dossier. On a fait aussi on vous propose aussi un article sur comment remettre à neuf son bordé, donc avec soit la rénovation, soit le covering, soit la peinture. Donc voilà, trois solutions. Toutes ne sont pas à la portée du plaisancier lambda. Hein. Parfois, il faut faire appel aussi à des professionnels. Donc, c'est les différentes possibilités. Et puis, on continue. Depuis quelques mois, on a mis en place une rubrique mécanique avec une de nos pigistes, Cécile, qui fait ça avec l'INB, l'Institut Nautique de Bretagne. Le mois dernier, on avait fait expliquer comment fonctionnait l'injection indirecte. Là, ce mois-ci, c'est l'injection directe. Donc on reparle un peu de Yamaha, puisque Yamaha sont les seuls à faire du hors-bord 4 temps en injection directe. Donc voilà, c'est toute l'explication du fonctionnement. Et puis bon, bien évidemment, une belle navigation sur Bretagne Nord, la côte de granit rose que François a faite. Et puis, bien évidemment, les dessous, le making-of de nos élections des motorboats de l'année.
D'accord, dont le vainqueur sera annoncé, là, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais à quelle date on pourra
connaître. Le vainqueur, au niveau du magazine, ça sortira dans le numéro qui sort en décembre, donc vers le 15-16 décembre. Mm-hmm. Voilà. Il y a une autre problématique à laquelle on est confronté, mais c'est que l'absence de Paris fait qu'habituellement on fait un spécial, un gros numéro de salon au mois de décembre, mais cette année, ça sera un spécial nouveauté. Donc on continue, il est quand même prévu... mi-novembre, la sortie, et pour Motorboat et pour Neptune, de nos gros numéros de fin d'année, qui sont des numéros catalogues qui présentent toutes les nouveautés de l'année à venir. Donc voilà. Comme je disais, on s'adapte, il faut.
Moi, je dis, la côte de granit rose, c'est très joli. Pensez quand même à venir en Bretagne Sud.
C'est prévu, c'est prévu.
Plus de soleil, vous êtes les bienvenus.
C'est prévu.
Invité permanent. Radio Ponton, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie tous nos experts et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Coupé.